Europe 1, la libre antenne, Sana Blanger.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien, vous le savez, la libre antenne est votre émission. Alors chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a marqué ou qui m'a inspiré dans la journée. Ce soir, j'ai choisi le mot « silence ». Alors que les médias communiquent sans interruption sur de nombreux canaux, le silence n'a plus droit de citer. Il est pourtant essentiel à l'écoute et à la réflexion. Sans imiter les bouddhistes qui pratiquent le noble silence, en restant calme et silencieux pendant les moments de vie en communauté, il y a pour certains matière à s'inspirer de cette pratique. On peut aussi faire ce que j'ai fait aujourd'hui en prenant une feuille de papier, un stylo et en engageant mon cerveau à la réflexion par l'écriture. Essayez de traiter ainsi vos problèmes les plus délicats et vous constaterez que l'on en tire l'avantage de la clarté de sa pensée. De votre côté, comment pratiquez-vous le silence? Préférez-vous parler en continu ou écouter les informations du matin au soir? Et quel avantage ou désagrément attribuez-vous au silence? Appelez-nous au 3921 pour justement rompre le silence et partager votre avis, vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Ils sont là, fidèles au poste, Adrien et Bastien vous répondront au standard du 3921. Et puis on a la visite d'Estelle qui vous répondait à l'époque également au standard. Et puis c'est comme depuis le début de la semaine, Julien Blanc qui réalise l'émission. A tout de suite.
Sana Blanger vous écoute sur Europe 1.
Accueillons tout de suite notre premier auditeur et c'est Georges. Bonsoir Georges.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci de m'accueillir à la Libre Antenne ce soir et à votre rapidité, car je vous ai contacté que ce matin, et votre collaborateur qui est très, très sympathique et très gentil, donc m'a proposé de passer ce soir. Je voudrais aborder, absolument, Sana, avec vous, le sujet du transgenre.
Oui, sujet voilà. Très, j'ai envie de dire.
Sujet qui est, je ne sais pas si d'actualité. C'est un effet de mode, le mot mode n'est pas de circonstance, mais bon, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis alors le grand-père d'une petite fille, d'une adolescente de 16 ans, qui envisage donc de changer de sexe.
D'accord.
Alors, pour vous dresser un tableau très rapide, donc, cette petite fille a 16 ans, donc elle est orpheline de maman depuis l'âge de 3 ans, qui était donc ma fille unique. La maman était ma fille unique.
D'accord.
Et elle est élevée donc par le papa.
Mmh.
Donc nous constituons aujourd'hui donc trois familles, donc la famille paternelle, la mienne et celle de mon ex-épouse, donc la grand-mère.
D'accord.
Je voulais signaler qu'il y a une parfaite entente entre tout le monde, donc beaucoup d'amour entre tout le monde, aucune animosité.
Beaucoup de communication,
oui, jusqu'à un certain point concernant ce sujet du transgenre.
D'accord.
Donc cette petite fille, jusqu'à l'âge de 14 ans, était une formidable petite blonde aux cheveux très longs, aux grands yeux bleus. Tout le monde la félicitait et avant de la saluer, on lui disait toujours « qu'est-ce que tu es jolie ?»
Mm-hmm.
Vous voyez, cette petite fille, donc, à l'âge de 14 ans, a avoué à sa grand-mère, plutôt à la grand-mère qu'à moi, parce que bon, entre un grand-père et une petite fille, c'est toujours peut-être un peu plus délicat, il y a de la pudeur. Et avec la grand-mère, il n'y a pas cette pudeur. Mais elle sait parfaitement que la grand-mère me rapporte pas mal d'informations.
Oui, enfin, très souvent, on confie tout à ses conjoints. Donc,
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Et donc, ce sujet du transgenre, côté paternel, puisqu'elle est élevée donc, par son papa, et, par la, et avec tout l'environnement donc, du papa, c'est un sujet qui est en total déni. Personne ne veut l'aborder.
Ah.
Donc, c'est entièrement rejeté. J'imagine un peu la détresse aussi du papa, hein, parce que c'est pas évident. J'ai déjà abordé le sujet avec lui et c'est très délicat pour lui. Il refuse d'en entendre parler.
Georges,
ce n'est pas ma position.
Vous accepterez que je vous pose des questions forcément un peu plus poussées par la suite, une fois que vous aurez...
Tout à fait, toutes les questions que vous voulez.
Très bien, je note. Hein.
Bon. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis le grand-père maternel.
Oui.
Et puis, il y a la grand-mère donc, maternelle. Nous habitons tous les trois aux antipodes de la France.
Mm-hmm.
Donc, il y en a un au sud-ouest, l'autre au sud-est et l'autre dans le nord.
D'accord.
Mais ça ne nous empêche pas de nous voir quand on le souhaite. Il n'y a jamais eu le moindre refus. Et je répète encore, beaucoup d'amour parmi tout le monde.
Très bien. C'est une bonne base déjà.
Voilà. Cette petite fille, donc, à l'âge de 14 ans, a avoué donc à sa grand-mère... Alors, quand j'emploie le mot grand-mère, c'est grand-mère maternelle.
Oui.
Donc, elle a avoué à sa grand-mère maternelle qu'elle était homosexuelle. Ceci dit, comme ce n'est pas une maladie, mais que c'est, ça fait partie de la nature humaine, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
C'est bien, mais, je trouve ça super que vous le précisiez, c'est vrai. Ce n'est pas une maladie.
Oui, je le précise parce que on a tendance à, surtout sur... certains politiciens, de faire passer ça pour une maladie, alors que ce n'est pas le cas du tout. J'ai parmi mes amis et mes meilleurs amis des couples aussi bien gays que lesbiens, et tout se passe à merveille, je dirais même que c'est mes meilleurs amis. Donc, ceci dit, à l'âge de 14 ans, donc, elle a avoué ça à sa grand-mère, et, mais par contre, elle a poussé un peu plus loin la discussion en lui disant qu'elle voulait changer de sexe.
Oui.
Et là, pour moi, ça ne fait pas partie de la nature, enfin, entre guillemets encore. Hein. Et c'est un sujet qui est assez délicat et c'est un peu un appel de détresse que je... C'est pour ça que je viens vers vous ce soir, sachant la qualité de vos conseils qui ont toujours une très grande clairvoyance.
Merci beaucoup.
Et surtout, j'espère pouvoir vous aider. Pour les auditeurs qui nous écoutent, que je salue également, parce que j'en attends également beaucoup de leur part. C'est pour ça aussi que je vous ai appelé ce soir.
Donc,
cette petite fille à l'âge de 14 ans, de la magnifique petite blonde aux cheveux très très longs, elle a voulu couper tout ça et se faire une coupe à la garçonne, qui lui va d'ailleurs à merveille, je reconnais. Ça lui va à merveille, parce qu'on ne peut pas changer la nature. La nature lui a tout donné en tant que jeune fille. Et bon, bah, le fait de changer de coiffure et tout, mais vraiment à la garçonne, elle est toujours très très belle.
Bon, donc... potentiellement, elle sera un très bel homme également.
Alors, au niveau de l'homme, ça sera, entre guillemets, un petit mec, parce que ce n'est pas la stature d'un homme, vous voyez ce que je veux dire.
Alors, je dirais que là, ce sont les prémices. On est au tout début, c'est vraiment embryonnaire. Alors, c'est un sujet absolument passionnant que vous lancez. Donc, j'invite effectivement les auditeurs à réagir au 739-21 en commençant par le mot nuit pour également vous aider, vous conseiller également, donc compléter ce que je pourrais, j'espère, vous conseiller, mais en tout cas vous proposer, parce que ce ne seront pas des injonctions, bien évidemment, Georges.
C'est ce que j'attends des auditeurs, notamment de la part de parents qui vivent ce sujet,
bien sûr,
et de la part aussi d'une jeune fille qui a été jusqu'au bout. Mais enfin, on va en parler un peu plus longuement.
Qui est allée jusqu'au bout, oui.
Voilà, donc cette petite fille a eu malheureusement la perte de sa maman à l'âge de 3 ans dans un accident, c'était ma fille unique, et donc elle a développé un caractère très très dur. Puisque les circonstances de la vie ne lui ont pas fait de cadeau. Et donc, elle est élevée par son papa, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Bien sûr.
Et oui, pardon.
Non, je vous ai dit bien sûr. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, Georges.
Oui.
Je voudrais revenir déjà sur le papa, le père de votre petite fille. Vous nous avez dit qu'il était dans le déni, qu'il n'acceptait pas...
Totalement.
Voilà. Vous nous avez dit également qu'il y avait beaucoup de communication entre vous. Est-ce que vous en avez parlé avec lui et quelle est pour lui la raison pour laquelle il refuse de...
Alors, je lui en ai parlé en lui demandant s'il pouvait se rapprocher donc, d'associations.
Excellent.
Puisque ça existe.
Bien sûr.
d'association, mais c'est un déni pour lui. Pour lui, c'est un non-sujet.
Mais qui va devenir un sujet, puisqu'il va voir évoluer.
Et qui va le devenir, oui. Qui va le devenir de plus en plus, parce Bien que bon, sûr. Elle a 16 ans, c'est une excellente élève. Donc l'année prochaine, c'est le bac, et les 18 ans arrivent. Et donc, face à cette situation, il est plus que probable que ma petite fille se rapproche de sa grand-mère pour changer d'académie, ne serait-ce. Et puis, je voudrais faire une petite parenthèse, d'ailleurs, Sana. Elle a toujours dit qu'elle était la psy de toutes ses classes qu'elle a traversées. Et donc, vous imaginez aisément le métier qui va la concerner.
Oui, voilà. je peux imaginer. C'est aussi une façon de cheminer et d'aller vers soi, hein, forcément, quand on est...
De comprendre
pas mal de choses qui... Les épreuves de la vie.
Je la reçois régulièrement avec ma petite copine,
oui.
Et laquelle petite copine est féminine jusqu'au bout des ongles.
Mm-hmm.
Et puis ma petite fille, eh ben, elle, avec sa coupe garçonne, elle ne met que des vêtements masculins, mais toujours avec une grande élégance. Et quand on va à la plage, par exemple, eh bien, elle se met comme un garçon, c'est-à-dire qu'elle met des bermudas, et puis en haut, elle met ces espèces de maillots que mettent les jeunes femmes qui font du canoë-kayak, vous voyez, toujours très 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 serré, pour essayer de cacher un maximum, mais bon, là encore, la nature fait bien les choses quand elle le veut, donc c'est pas évident, et donc elle veut se donner cette apparence, et c'est donc le garçon dans sa tête et autres.
Mais
elle a changé son prénom.
Alors justement, en fait, ce que je voulais savoir, on va d'abord parler d'elle, et puis ensuite on parlera de vous.
D'accord.
Est-ce que, au-delà de son homosexualité, depuis quand est-ce qu'elle avait verbalisé le fait qu'elle pense être un garçon et non pas une femme ?
Par rapport à, c'est sa grand-mère qui est mon ex, donc qui me guide aussi, parce que c'est un sujet que nous affrontons entre guillemets ensemble, bien évidemment.
Ouais. Enfin, mais plus à sa grand-mère.
Pas vraiment le mot, mais
elle en parle
voilà.
plus à sa grand-mère qu'à
grand-mère,
vous.
Oui. Ouais. Alors quand je dis grand-mère, c'est la grand-mère forcément maternelle, hein, puisque du côté du père, c'est le rejet total de ce sujet. Donc avec la grand-mère, donc qui est sa confidente, heureusement d'ailleurs que ça existe, cette confiance et autres, donc elle se livre énormément. Nous les recevons d'ailleurs, elle et sa copine, donc aucun problème, hein, mais vraiment aucun problème.
Ouais, super.
Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'à l'âge de 14 ans, donc elle a décidé de cette transformation, cette première transformation physique. Et elle aborde donc le sujet du transgenre et elle a commencé à aborder le fait avec sa grand-mère de se faire enlever la poitrine.
Oui. Et donc avant ses 14 ans, vous n'aviez jamais observé quelque chose où elle n'avait jamais exprimé le fait qu'elle ne pensait pas être dans le bon corps ?
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer quand elle avait 13-14 ans pour qu'elle refuse cette féminité. Je ne sais pas. Là, c'est à vous que je pose la question. Vous êtes une femme. Qu'est-ce qui peut se passer à cet âge-là pour qu'il y ait ce refus total de la féminité et de vouloir devenir un homme ?
Oh, ben, y a plusieurs...
Là, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse.
Voilà, et puis il y a tellement de facteurs qui jouent, donc je ne pourrais pas non plus vous répondre, sauf si j'avais votre petite fille face à moi, et là, éventuellement, nous pourrions creuser toutes les deux.
Oui.
Maintenant, justement, est-ce qu'elle est accompagnée également ? Parce que parfois, il peut y avoir cette confusion aussi, de se dire, voilà, j'assume mon homosexualité, ce qui est très bien.
Et... Oui, mais ça, l'homosexualité, je crois que c'est un autre sujet.
Alors justement, voilà. Donc c'est en cela de dire 14 ans, au niveau de sa sexualité aussi, on découvre la sexualité hein, à partir de, enfin bien avant, mais je dirais, voilà, c'est plus prononcé. Ce qui peut également être un frein pour les parents, parce qu'on n'a pas forcément envie de s'immiscer dans la sexualité de nos enfants. Donc ça aussi, c'est ce qui crée aussi ce fossé.
Surtout pour un homme, pour le papa ou même pour moi.
Pour vous
C'est pas avec moi qu'elle va aborder ce problème-là, je pense.
C'est pas évident du tout.
Oui.
Donc là, effectivement, moi, ce qui peut déjà être une piste pour elle, c'est vraiment, et c'est très important, c'est qu'elle se fasse accompagner psychologiquement sur sa transformation si elle le décide. Ce qui peut être extrêmement intéressant également, c'est qu'elle y a tellement de reportages aujourd'hui, il y a tellement d'associations, il y a des forums également qui peuvent l'accompagner, l'aider. Moi, je pensais à l'association Outrans, Outrans, qui est intéressante également comme association. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup aujourd'hui d'informations qui permettent de, comment dire, démystifier ou en tout cas rassurer les parents sur le fait d'accompagner quelqu'un dans sa transformation, sur son épanouissement, parce que c'est extrêmement important. C'est très délicat également. La moindre parole peut être très mal interprétée.
Bien sûr.
Le moindre geste peut être très mal interprété. Donc là, je dirais que c'est très touchy comme sujet, et surtout pour votre petite fille.
Oui, alors le souci, c'est que bon, si ça dépendait de moi ou de la grande, avec ce genre d'association, nous y serions déjà depuis un ou deux ans. Le problème, c'est que le papa refuse ce sujet-là. Et puis, vous connaissez l'autre problème que nous avons dans notre beau pays. Je sais qu'il a voulu, suite à notre insistance, se mettre en rapport avec un pédopsychiatre. Le rendez-vous était à 7 mois. 7 mois pour un rendez-vous, que voulez-vous faire? On est un beau pays, on avait un beau système de santé, c'est plus le cas. Vous voyez, donc, c'est un problème aussi, celui-là, vous savez. Et comme le papa, donc, suite au conseil que je lui ai donné il y a un peu plus d'un an, se rapprocher à des associations spécialisées à cette situation, il a refusé. Bon, c'est...
Si... Alors
je comprends un peu son... J'essaye pas de me mettre à la place du papa, mais ça ne doit pas être facile pour un papa de se retrouver devant une situation comme celle-là. C'est déjà pas facile pour moi, le grand-père, et pour le papa, c'est pas facile du tout, surtout qu'il refuse ça.
Bien sûr, non, c'est pas évident. Et en même temps,
non, c'est pas évident.
Il peut y avoir des inquiétudes qui sont légitimes. C'est quand même pas évident.
Mais je vais vous dire après, plus loin dans la discussion, la mienne d'inquiétude.
Et oui, par rapport à vous, moi je vous trouve extrêmement ouvert d'esprit et d'une humilité extraordinaire.
Mais je n'ai plus qu'elle, moi, vous savez, j'avais une fille unique qui a disparu et maintenant, bon, j'ai plus que ma petite fille et donc il n'est pas question pour moi de passer à côté de quelque chose, vous voyez. Donc il faut que je, aussi bien sur le plan affectif que sur le plan matériel, ça ne me pose aucun problème pour qu'elle n'ait pas de soucis. Mais j'en ai quand même des soucis parce que j'ai quand même quelques inquiétudes. Par exemple, je vous donne un exemple au niveau de tous ses camarades, copains, copines. Elle a changé son prénom.
Oui.
Alors elle a choisi un prénom qui est mixte. Bon, je vous donnerai l'exemple de Michel, ça peut passer pour l'un ou pour l'une. C'est pas Michel, elle en a trouvé un autre. Mais bon, peu importe. Mais donc, tout son petit milieu de copains, copines, l'appelle par le prénom qu'elle s'est choisi. Alors, à l'école, non, parce qu'évidemment, elle a un état civil.
Oui.
Mais avec son environnement, elle s'est créé son petit monde. Donc, et y compris sa grand-mère. Alors, sa grand-mère, elle l'appelle par son nouveau prénom. Moi, je n'y arrive pas, alors je l'appelle même pas par son prénom de naissance. Je trouve toujours je passe toujours dans le il. Plus, vous voyez, bon, ben, c'est un peu une dérobade, mais ça me gêne un peu aussi, vous voyez. Alors, il n'y a que quand c'est vraiment une phrase prononcée très rapidement, au paf, le prénom, il sort. Mais bon.
Oui, mais ça viendra avec le temps.
C'est pas évident non plus. Et donc, elle s'est fait cet environnement-là. Moi, ce qui me pose souci...
Oui.
C'est que bon, elle aura son bac l'année prochaine, puisque c'est une excellente élève, et à 18 ans, donc je pense qu'elle va quitter le milieu paternel à cause de ça, et pour se rapprocher donc de sa grand-mère. Mais c'est la suite qui me pose problème, parce qu'à 18 ans, elle pourra effectivement choisir de se faire enlever les seins, prendre de la chimie masculine, parce qu'elle sera majeure, et puis pour certaines interventions, si la France ne veut pas les faire, ben, il y a d'autres pays autour de la France qui les font. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que moi, mon sujet d'inquiétude, Sana, et c'est là où j'en attends beaucoup des auditeurs ce soir, c'est que si elle va jusqu'au bout, qu'elle fait les interventions et tout, et puis dans quelques années, elle s'aperçoit qu'elle s'est trompée, quelle est l'issue ? C'est le suicide l'issue, parce que si après elle n'est plus bien dans sa peau, qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite ? Vous voyez, c'est ça mon inquiétude. Et si il y a des auditeurs qui vivent cette situation en tant que parents, mais surtout en tant que jeune fille qui a fait ce genre de transformation, j'aimerais bien parler avec ce genre de jeune fille, devenue jeune homme, pour voir un peu le cheminement. Et si tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si ça va mal, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ça mon inquiétude, vous voyez ? Et c'est pour ça que je vous ai appelé.
Je comprends. Je comprends et c'est tout à fait légitime. Alors, en fait, si on parle plus de vous, idéalement, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer un moment avec votre petite fille et d'échanger avec elle, comme vous venez de le faire avec moi.
Exactement. C'est-à-dire lui faire écouter le podcast,
Par exemple, absolument. Non, mais excellente idée. Oui. Vous avez tout à fait raison. Et vraiment de lui faire comprendre que vous êtes là et que vous allez la soutenir.
Ah mais ça, elle le sait. Elle sait que je suis là dans toutes les circonstances, et y compris sa grand-mère. Ça, elle le sait.
Eh bien, tous les deux, c'est-à-dire sans la grand-mère maternelle, vous créez ce moment avec votre petite fille, cette bulle, tous les deux, à échanger, comme vous venez de le faire avec moi, à vraiment lui verbaliser vos inquiétudes. Je reste convaincue que, compte tenu de l'amour que vous lui portez, du soutien que vous allez lui témoigner, eh bien, c'est une aventure que vous pourrez vivre ensemble. Vous serez rassurée, et elle aura le meilleur soutien qu'elle ne pourrait imaginer, envisager, et de se dire « c'est formidable, j'ai ce soutien ». Parce que parfois, quand on est dans cette transition, comme la réaction de son père, il y a du rejet. Et c'est très violent, ça peut être extrêmement violent.
Donc, effectivement.
À un moment donné, il y a un peu ce sacrifice de se dire « qu'est-ce que je fais moi ? Est-ce que je vais jusqu'au bout de ma transition pour mon équilibre, pour mon épanouissement, pour mon bonheur ? Ou est-ce que je me sacrifie pour mon père ? Pour l'amour de mon père ? Pour mes proches ? Je ne sais pas ce qu'il y aura de plus bénéfique pour elle. Est-ce que c'est tomber dans la dépression totale parce qu'elle n'aura pas accompli ce qu'elle a à accomplir ? Ou au contraire, d'aller vers ce vers quoi elle a véritablement besoin ? C'est même pas une envie, c'est un besoin, là. Donc,
mais en plus, elle a un caractère très trempé, vous savez. Donc, je ne pense pas qu'elle l'aille dans le sacrifice. Je ne pense pas du tout.
Eh bien, voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes face à l'inévitable. Donc, soit son père accepte, soit sinon, il aura deux deuils à faire. Celui de sa fille et celui du futur fils qu'il va avoir.
Oui, c'est vrai que le côté du père, ça ne va pas être simple. Bon, pour nous non plus. Mais nous ne sommes pas du tout, quand je dis nous, c'est donc avec la grand-mère, on n'est pas du tout dans le rejet, absolument pas. On accepte la situation et on va faire face ensemble pour que ça se passe du mieux possible. Oui. Mais moi, mon inquiétude, ce n'est pas qu'elle réussisse. Parce que si elle réussit, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si jamais, moi, mon angoisse, c'est vraiment une angoisse, et c'est pour ça que je vous ai appelé, c'est si jamais elle se trompe et que dans quelques années, ça sera irréversible les décisions qu'elle aura pu prendre, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, je vous rassure, Georges, une transition, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Hein. Il y a vraiment énorme... Ah bah oui, il y a tout un protocole... C'est vraiment très long. Il faut compter à peu près deux à trois, enfin presque 4 ans, je crois, de mémoire. Et il y a un accompagnement psychologique qui est très très présent. Donc on a le temps de se dire est-ce que vraiment c'est ce corps qui ne me convient pas ? Est-ce que je suis prête ? Est-ce que je suis prêt ? Une transition ne se fait pas comme ça. Donc, rassurez-vous, même pour elle, ce n'est pas comme si je commandais un article dans un catalogue.
Oui. Alors, oui, mais par contre, à l'âge de 18 ans, si elle veut prendre des hormones masculines, elle pourra le faire. Et ça, ça commence à devenir un chemin irréversible, non ?
Alors, je vous rassure, techniquement, elle pourrait même en prendre avant ses 18 ans. Donc,
oui.
Voilà, donc une fois que la machine est lancée, elle est lancée, mais ça n'est pas accessible à tout le monde. Et je vous rassure, il y a tout un staff autour, un encadrement qui est là pour valider si oui ou non, il y a transition à faire ou pas. Donc, vous avez peur de quoi ? Qu'elle aille à l'étranger, qu'elle revienne, et qu'il revienne ?
Ben, ma crainte, c'est que bon, cet encadrement médical que vous expliquez, c'est l'encadrement français. Mais bon, il y a des pays qui s'en foutent de tout ça. Du moment que vous prenez une décision, je pense à la Belgique notamment, où on m'a dit qu'il n'y a pas ce souci que vous évoquez peut-être avec le système de santé français. Donc, si elle va voir un médecin en Belgique à 18 ans et un jour, et qu'elle dit « je veux ça », et qu'elle l'obtient, le chemin de l'irréversibilité va commencer. Je ne parle pas d'actes cliniques encore pour l'instant, mais moi je ne suis pas médecin, je n'ai pas ces connaissances, mais si vous commencez à prendre des hormones masculines, il y a un côté irréversible au bout de combien de temps, ça je ne sais pas.
Moi non plus, mais heureusement nous sommes dans une société extrêmement aujourd'hui dont les mentalités bougent de plus en plus, la transition devient de plus en plus, on en parle, hein, ça y est, on libère la parole, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou, et par conséquent les professionnels sont plus, je dirais, aguerris, ça se fait de plus en plus, donc il y a forcément quel est le terme exact ? Parce que je cherche le mot. J'essaye de vous rassurer en même temps sur le fait que une transition, ça n'est pas une chirurgie esthétique.
Ah, tout à fait. Oui, c'est autre chose.
C'est autre chose. Donc, c'est une idée qu'elle a, c'est un besoin, c'est une envie. Elle verra, c'est elle qui décide. Et puis, si elle se trompe, eh bien, encore une fois... il y aura des personnes pour l'accompagner et vous serez peut-être encore là pour le faire, voilà. Mais au moins, elle l'aura fait.
Oui, c'est vrai. Vous voyez que là, ça devient... C'est pas évident. C'est pas évident et j'aimerais tellement avoir l'opportunité par votre intermédiaire de parler avec une jeune fille qui aura été dans ce chemin pour discuter un peu et puis parler avec des parents qui vivent cette situation, on va se dire tout ce qu'on vient de se dire mais parler avec une personne qui a fait ce chemin, oui. J'aimerais tellement qu'il y ait une auditrice, un auditeur qui a fait ce chemin et qui aurait la gentillesse, l'extrême amabilité de passer quelques minutes avec moi au téléphone ou autre pour qu'on puisse que je puisse avoir d'autres arguments quand j'en parlerai avec elle, parce que vous avez raison, il va falloir que j'en parle directement avec elle, ne serait-ce qu'en lui faisant écouter l'émission. Mais d'en parler avec quelqu'un qui a vraiment vécu cette aventure, on va appeler ça comme ça, cette transformation, ça pourrait m'apporter, je ne sais pas, un éclairage différent.
Alors, ça commence à bouger au niveau du 739-21. Donc j'invite vraiment les auditeurs à réagir également si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, c'est l'appel de Georges qui vous le demande. Donc, Mamie Tam Tam, qui est une fidèle auditrice. « Bonsoir, cette jeune fille annonce son homosexualité et bravo. Mais quand elle parle de changer de sexe, ne serait-ce pas une manière de vouloir encore plus affirmer sa part de masculinité ?»
Oui, probablement, mais quand on la voyait, la nature lui avait vraiment tout donné pour être une splendide jeune femme. Oui. Vous voyez, donc, d'ailleurs, quand elle était plus petite, avant de la saluer, tout le monde lui disait « mais qu'est-ce que tu es jolie ?» Elle a dû entendre cette phrase-là un milliard de fois. Vous voyez, donc...
Je comprends, mais ça ne suffit pas.
Oui. Non, c'est clair. C'est clair.
Elle est peut-être atteinte également de dysmorphophobie, c'est-à-dire une distorsion de son image, elle ne se supporte pas. C'est pour ça que vraiment, l'accompagnement est extrêmement important pour une transition, parce qu'il y aura des experts qui seront là pour juger, j'aime pas le terme, mais en tout cas diagnostiquer. Voilà, diagnostiquer si oui ou non la transition doit se faire ou pas. Si elle dit non et qu'elle... qu'elle outrepasse le verdict, ou en tout cas le diagnostic, eh bien, elle le fera. Et si ça, elle se plante, eh bien, malheureusement, elle devra assumer. Mais ce sera aussi une expérience pour elle. Donc moi, j'ai entièrement confiance sur... Si vous nous dites qu'en plus, elle a un tempérament très fort, Georges, j'ai envie de vous dire, faites-lui confiance. Faites-lui confiance à votre petite fille.
Tout à fait, je lui fais confiance. Mais vous savez, bon, on a tous été adolescents. Les idées qu'on a en tête à 15-16 ans, on les a rarement tout au long de notre vie. Donc c'est un peu ça ma crainte, si vous voulez. Parce que je ne lui connais absolument pas des tendances capricieuses sur plein de choses. Je ne la connais pas à avoir fait des caprices pendant toute son adolescence, jamais. Donc, contrairement à ce que pourrait penser, je pense, le papa, c'est pas un caprice du tout. Je prends ça très très au sérieux et c'est pas une vue de l'esprit. Donc, connaissant son tempérament très très affirmé, elle est beaucoup plus mûre que l'âge de 16 ans. Mais elle a quand même 16 ans pour pas mal de choses. Elle a 16 ans.
Justement.
Et peut-être que pour d'autres, elle en a 25 ou 30, mais pas pour. Mais voyez, c'est pas évident non plus.
Justement, c'est là qu'il faut faire la part des choses entre un effet de mode, une crise d'adolescence. Oui. Et véritablement un mal-être.
Donc, mais le mal-être, on n'a pas réussi, enfin, surtout la grand-mère, on n'arrive pas à déceler un mal-être qui pourrait l'amener à prendre ce genre de décision, ou alors elle le cache tellement bien, ce mal-être, que moi, je le connais pas, ce mal-être.
Oui, c'est là que... Ce qui est surprenant, c'est qu'à 14 ans, elle exprime tout à coup le fait qu'elle veuille devenir, de faire une transition. Donc, à voir vraiment sur l'accompagnement, à voir sur la durée, si véritablement c'est un mal-être ou un véritable besoin qu'elle exprime. Je mets un gros point d'interrogation. Je mets un gros point d'interrogation sur la suite. Mais il n'y a que elle qui a la réponse. Vraiment.
Oui, parce que moi, je vous répète, ce qui me fait peur, c'est qui me terrorise, c'est si jamais elle se trompe et que c'est irréversible.
Alors, justement.
Qu'est-ce qui se passe derrière, quoi ? Il n'y a pas beaucoup d'issues, vous savez, si elle se trompe et puis qu'elle refuse après ce choix qu'elle a fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est le néant.
Mais ce sera la question qui lui sera posée de toute façon.
Et c'est la question que je pose, moi. Et c'est cette question-là qui a fait que je vous ai appelé.
Oui.
Parce que vous écoutant avec votre clairvoyance et la gentillesse de vos conseils et tout, je me suis dit, il faut que j'appelle Sana, c'est pas possible, parce que je sais pas qui appeler.
Alors, merci de votre confiance, Georges. J'espère en tout cas pouvoir déjà atténuer un peu cette inquiétude qui est, encore une fois, légitime et normale. Maintenant, comme je vous disais, ce qui va être extrêmement important, petit 1, c'est de communiquer avec votre petite fille, vraiment, sans la grand-mère maternelle, mais vraiment un échange avec elle, comprendre ce qui se passe, pour quelles raisons est-ce qu'elle émet tout à coup ce souhait, et de lui dire que vous allez l'accompagner dans sa démarche. Ça, peut-être que ça peut également déverrouiller d'autres choses. Alors, Aurore, SMS, bonsoir Aurore, qui nous a envoyé donc un SMS. Pour les hormones, il suffit d'arrêter et ça revient. Même si elles ne changent pas d'avis, il faut les prendre à vie. Ensuite, Anne, qui vous dit, en tapant sur Google « témoignages de transgenre », beaucoup de témoignages et vidéos. Merci Anne, merci Aurore et merci Mamie Tam Tam. Voici pour le moment les seules réactions que nous avons au 739-21, Georges, concernant donc, ce que vous traversez actuellement et ce que vit votre petite fille.
D'accord. Ben elle, pour l'instant, elle vit son adolescence. Oui. Tout se passe très bien.
Tout se passe très bien.
Si on la voit, elle est rayonnante dans ce petit couple qu'elle fait avec sa copine. Là, tout va très très bien. C'est chez moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas chez elle. Ou en tous les cas, on le voit pas chez elle.
Le seul moyen de réduire votre angoisse et votre anxiété, c'est dans un premier temps d'échanger avec elle et de deux, vous renseigner. Renseignez-vous effectivement. Allez voir des associations, vraiment, en amont, si vous le souhaitez. Idéalement, faites-le avec elle.
Oui, alors ça, c'est un peu plus difficile parce que géographiquement, on est assez distant. Mais bon, la distance, aujourd'hui, avec Internet ou autre, ça n'existe plus.
C'est exactement
mais,
ça.
C'est cette capacité de dialogue que nous conservons avec elle. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ce que je crains aussi, c'est ça serait pour moi aussi, vous savez, une grande déception qu'elle se fâche, mais qu'elle quitte le milieu paternel. Bon, si elle veut changer d'académie pour ses études, il n'y a pas de problème. Mais que ça se passe mal par la suite avec le papa, parce qu'on s'entend tous très bien, et ça serait un gros gâchis.
À ça après, malheureusement, voilà, c'est je comprends parfaitement, mais si les deux ne lâchent pas prise, comment voulez-vous que ça se passe autrement ?
Oui, c'est vrai.
C'est extrêmement compliqué. Donc, s'ils ont envie de, justement, créer ce gâchis, eh bien, chacun restera campé sur ses positions. Si, au contraire...
Mais c'est pas facile hein, pour des parents de face à une situation comme ça.
Ah mais non, pas du tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Généralement, on respecte plutôt la sexualité de son enfant. Et là, ça éclabousse quand même hein, de se dire, bon, il y a une transition qui se fait, il y a beaucoup d'images. Hein, appelons oui. Un chat et non un félin de compagnie. Il y a beaucoup d'images qui vont arriver. Pas évident tout ça, pas évident.
Donc, il y a pas mal de films en ce moment qui sont d'actualité, mais notamment concernant un jeune homme qui veut devenir une jeune femme. Bon, mais... Il y a un certain côté caricatural, commercial, vous voyez. Donc ça ne répond pas du tout à la question que moi je me pose, ce genre de film.
C'est là où vous avez entièrement raison quand vous dites « J'aimerais croiser une personne qui a vécu la même chose, oui. Le même parcours, parce que
c'est une jeune femme qui a fait
ce sont les meilleurs témoignages. Hein. Ce sont les meilleurs
Bien sûr,
témoignages.
Absolument.
Alors, vous avez également l'Association nationale transgenre qui peut vous et votre petite fille vous aider dans l'accompagnement ou en tout cas vous aider à répondre aux questions que vous vous posez l'un et l'autre.
D'accord.
Donc, merci. Bastien vient de me dire que c'est une auditrice qui a appelé au standard du 3921. Donc, elle a trouvé ça sur Facebook. Ah non, c'est... D'accord, l'Association nationale transgenre, donc ils sont sur Facebook. Voilà, donc vous pouvez les trouver sur Facebook.
D'accord.
A-N-T. A-N de national, donc Association nationale transgenre.
D'accord, ben je le note.
Et là, vous avez plein de... Manifestement, hein, c'est... parce que je suis en train de le voir, là, j'ai... Merci. Merci. Merci Anne. D'accord, c'est sur le site de la Libre Antenne, c'est sur le Facebook de la Libre Antenne. D'accord, donc je viens de comprendre. Merci les garçons. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site, en tout cas le groupe Facebook de la Libre Antenne. Anne a laissé ce message pour vous.
D'accord, bah c'est très gentil, je le remercie.
Oui. Association nationale transgenre.
D'accord, j'ai bien noté.
Parfait. Belle perspective tout cela.
Oui, c'est un vaste sujet, comme on dit.
Oui, absolument. Mais ça a le mérite de bousculer les mentalités, ça a le mérite de faire avancer, de réfléchir également, à se dire, ben voilà, j'ai un enfant, je pense que son destin est tout tracé, et puis il nous annonce que... Comment dois-je réagir ? Comment réagit-on ?
Je suis tout à fait convaincu que je ne suis pas un cas isolé hein, face à une situation comme celle-là.
Évidemment. 1% de la population en France.
1%?
Oui.
Oui, c'est beaucoup.
Et ça, c'est juste déclaré.
Oui, oui. Donc, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Hein. C'est une phrase un peu trop simpliste. Mais comme je ne vois pas de mal-être, je vois rien qui pourrait laisser transpirer ce type de décision, vous voyez. Encore alors, si vous avez un adolescent recroquevillé sur lui-même qui communique avec personne, mais ce n'est pas le cas du tout.
Oui, c'est un peu ce qui est déstabilisant, parce que c'est très souvent, alors peut-être une caricature, hein, de partir de quelqu'un qui ne se sent pas bien du tout dans son corps et qui tout à coup annonce une transition. Voilà.
Oui.
Donc...
Écoutez, j'attends beaucoup de votre émission. Et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de pouvoir discuter avec une jeune fille qui aura fait ce parcours, une ou des.
Bien sûr, Georges, vous pouvez compter sur nous.
Ça pourra me rassurer d'un certain côté, et puis ça m'apportera de l'eau à mon moulin. Quoi.
Je comprends. Georges, je termine le 25 août la saison d'été sur Europe 1. J'espère vraiment avoir de vos nouvelles avant.
Alors là, comme elle va partir en vacances, je ne vais pas pouvoir la joindre. Elle part justement avec le papa, donc je ne vais pas pouvoir la joindre tout de suite.
Elle part avec son père, comme ça, par
SMS ou par WhatsApp, mais c'est pas l'idéal pour discuter de ça.
Un petit message, ne serait-ce qu'un petit message sur...
Oui, bien sûr.
Sur le groupe Facebook de la Libre Antenne.
Tout à fait.
D'accord. Bon.
Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse.
Mais c'est normal, et j'aurais adoré avoir un grand-père comme vous, vraiment.
Merci, c'est gentil.
Non, mais vraiment, vous êtes extraordinaire. Bonne soirée et bon courage.
Merci, c'est sincère. Merci et bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir, Georges.
Au revoir.
Europe 1, la Libre Antenne, Sana Blanger.
Exactement 23h04 sur Europe 1 et vous écoutez La Libre Antenne. On est encore ensemble pour malheureusement une petite heure, ça passe vraiment très très vite. Vous pouvez nous joindre au 3921 si vous souhaitez passer en direct comme Georges, ou alors réagir au 739-21 précédé du mot nuit. À tout de suite.
Sana Blanger vous écoute sur Europe 1.
Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir ?
Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
Et comment on la trouve, cette petite lumière, mamie ?
C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi.
Génial ! Merci, mamie.
Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr.
La Libre Antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Accueillons tout de suite Jean-Robert. Bonsoir Jean-Robert.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à La Libre Antenne.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
On s'est déjà parlé.
Ah oui ?
Oui.
Ah ?
On s'est parlé ça devait être en février 2022.
Ah d'accord. Et c'était dans quel cadre, Jean-Robert ?
C'était dans le cadre concernant la MDPH. Je vous avais appelé et je voulais que vous me rassuriez pour la MDPH.
Et alors, comment ça va depuis ?
Ben, ça n'a pas marché.
Ah mince !
Ça n'a pas marché parce que, en fait, excusez-moi de dire ça, j'ai un avocat qui m'a prévenu 48 heures avant pour me dire que l'audience ne pouvait pas avoir lieu.
Ah mince !
Voilà. Donc, j'avais un peu les boules. Ça fait 3 ans que j'étais là le dossier. Je lui ai fait la réflexion après par mail. Elle ne m'a jamais répondu. Voilà.
Et depuis, c'est le désert
total. C'est mort parce que ça n'a pas marché du coup. En fait, elle m'a demandé de faire un courrier en demandant d'annuler la procédure. Mais bon, qu'elle me demande ça, d'accord, mais pas 3 jours avant l'audience.
Ah mince.
Et voilà. Donc, voilà. Du coup, après, j'ai laissé tomber, ça m'a énervé, voilà.
Bon, est-ce que vous voulez quand même juste nous rappeler la raison pour laquelle
c'était
vous aviez...
concernant, en fait, j'avais fait une demande, c'était pour un déménagement, pour retourner en Île-de-France, et en fait, dans le cadre pour avoir un appartement aménagé, là, par rapport à mon handicap visuel, voilà.
Et donc, ça a été refusé?
Ça a été refusé parce qu'ils n'avaient pas d'éléments médicaux, d'éléments à cet élément, soi-disant. Mais bon, j'ai dit, en plus, vous me prenez 3 jours avant l'audience, vous êtes fort, hein. J'ai dit, ça fait 3 ans que vous avez le dossier, vous étudiez ça 3 jours avant, ben, chapeau.
Et ah, est-ce qu'il y avait moyen de faire appel de la décision, Jean-Robert ?
C'est trop tard.
C'est trop tard.
Je me suis renseigné, c'est trop tard.
Donc là, en fait, les portes sont fermées, vous ne pouvez plus déménager.
Je ne peux rien faire. Ben non, j'avais déménagé à Paris,
oui.
J'ai été dans un appartement aménagé, je supposais qu'il était aménagé, et en fait, je suis arrivé dans l'appartement, il n'était pas du tout adapté par rapport à mon handicap,
ah,
et je
ne
le savais pas.
D'accord.
Voilà, après j'ai essayé d'expliquer à l'avocat, mais l'avocat n'a pas voulu comprendre, maintenant je lui ai dit, on peut quand même y aller, essayer de tenter, voilà, expliquer, voilà, elle n'a pas voulu... Après, j'ai demandé ma protection juridique parce que c'était ma protection juridique qui m'avait. Et ils m'ont dit on ne peut rien faire. Je laisse tomber.
Et aménager l'appartement dans lequel vous êtes?
En fait, non, parce que l'appartement où je suis, c'est. En fait, parce que maintenant, ils font. Maintenant, il y a beaucoup de constructions où c'est. Ils appellent ça des maisons intergénérationnelles. Et c'est en fait mélangé entre personnes handicapées, personnes valides, personnes âgées. Tout
d'accord.
Ça, voilà.
D'accord.
Et en fait, moi, je ne le savais pas, mais en discutant avec des gens quand j'ai été là-bas, à l'appartement, en fait, c'est des maisons, c'est pas des maisons comme ils faisaient dans les années 80, c'est des maisons avec des plaques de bois. Vous savez, des plaques de contreplaqué, et après, ils mettent du sable, et au milieu, ils mettent du sable, et après, vous n'avez aucune isolation. Aucune isolation. Et moi, par rapport à ce que j'avais, je ne pouvais pas supporter.
Ouais. Oui. Bon.
Voilà, donc voilà, je ne savais pas parce que c'est en discutant avec des voisins avec qui j'étais qui m'ont expliqué ça. Et après, je me suis renseigné dans une autre mairie parce que je sais qu'il va en avoir une qui va se construire.
D'accord.
Et la mairie me l'a confirmé, c'était comme ça. Voilà.
Bon.
C'est des maisons écologiques, on fait des appels ça. Et voilà. Voilà.
Alors, vous imaginez, c'est quoi la suite alors pour vous? Bah oui, c'est quoi la suite?
Rien. Rien du tout. Bon. Rien du tout. Voilà. C'est pas évident à faire ce genre de dossier. Parce que vous savez, maintenant, les maisons qu'ils font, c'est plus des maisons comme il y a dans le temps, il y avait 20 ans, avec des parfums,
oui.
Tout ça. C'est des maisons écologiques avec du bois, du sable, et voilà. Et voilà.
Mais je suis vraiment désolée de la situation, Jean-Robert.
En plus, il n'y a pas de volet, donc vous imaginez en ce moment la canicule. Si j'étais là-dedans, je serais mort.
Bon.
Moi, non, je ne peux pas me permettre. Alors, j'avais demandé à mon propriétaire de me mettre des volets avec un certificat médical. Il ne m'a jamais répondu. Donc, du coup, j'ai dû repartir. Je ne pouvais pas rester. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais plus dehors au frais que dans l'appartement. Dans l'appartement, c'était... Pour moi, comme je vous avais expliqué, j'ai une maladie rare et je ne transpire pas. Donc, en fait, j'ai des glandes sudoripares qui ne fonctionnent pas.
Ah, ça y est, je m'en souviens.
Oui,
absolument.
Ouais. Mm. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous contactais parce que je voudrais avoir votre avis là-dessus. Voilà. J'ai un enfant que j'ai adopté à Madagascar.
Oui.
Je me suis remariée. Et le problème, c'est que ma femme actuelle, elle est un peu jalouse. Parce que je fais beaucoup de choses pour lui.
Vous êtes remariée il y a combien de temps, Jean-Robert?
Il y a 5 ans.
Cinq ans. D'accord.
Et le petit, je l'ai adopté, il avait 18 mois. Maintenant, il en a 14 ans.
Ah, super.
Voilà. Okay. Donc, le petit, le problème, c'est qu'elle me fait beaucoup de reproches. Et enfin, moi, voilà, je lui ai expliqué, je lui ai dit un enfant. Si tu avais un enfant, ça serait exactement pareil. Que, voilà, tu ferais pour ton enfant en priorité. Voilà, c'est normal.
Mais vous lui aviez dit que vous avez...
Oui, je lui avais dit. Voilà. Voilà. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire.
Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est jalouse de votre enfant?
Elle en parle, elle me dit tu payes beaucoup de trucs pour lui, mais pas pour moi, tout ça. Voilà.
Ah.
Je dis, voilà. Je lui dis, mais si, je te paye des trucs quand t'as besoin, voilà, je te paye, voilà, j'essaie de partager, et voilà. Je vais pas payer à mon fils et toi, t'as rien de te payer, voilà, ce serait pas logique. Voilà, j'ai dit, moi, quand t'as besoin de quelque chose, tu sais très bien, même si j'ai pas beaucoup d'argent, j'essaie de te faire aussi plaisir. Voilà.
D'accord.
Ouais. Mais bon. Je pense que, voilà, j'ai ma petite idée, les gens qui la connaissent s'aperçoivent qu'elle est très...
Jean-Robert, on vous entend pas très très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de...
Oui, ça y est, je suis rapproché. Voilà. Est-ce que ça va mieux, là?
Oui, oui, très bien. Merci.
Oui. Et en fait, je pense que c'est une personne qui... Comment je pourrais dire... qui se sent toujours victime. Qui va jamais de l'avant, en fait. C'est une personne qui va jamais de l'avant. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et...
Vous parlez de votre épouse?
Oui, je parle de mon épouse, oui, actuelle, oui.
D'accord.
Donc moi, voilà, je pense qu'elle aime bien se faire plaindre parmi plein de personnes, et voilà. Voilà.
Alors,
moi, je lui ai déjà expliqué, voilà.
Une femme qui exprime le fait que peut-être vous dépensez trop pour votre enfant, ça veut peut-être aussi dire, selon vous, quoi? Moi, j'ai eu une interprétation, mais...
Oui.
Bah, peut-être qu'elle a besoin peut-être d'un petit peu plus d'attention.
Bah, j'essaie de lui faire une attention quand voilà, elle me dit, si t'as pas d'argent, tu m'achètes pas. Mais quand je veux lui acheter, elle me dit, bah non, c'est pas la peine, voilà. Donc voilà, j'essaie de lui faire plaisir, voilà. Bon, elle travaille pas, c'est vrai. Mais, voilà,
est-ce qu'elle est économe? Est-ce qu'elle est économe, votre épouse?
Pas du tout.
Pas du tout. Alors. Qu'est-ce qui lui donne ce sentiment d'insécurité
Je ne sais pas, parce que quand elle a de l'argent, elle fait des formations, quand elle a de l'argent, elle dépense tout en espace de même d'un mois. Voilà. Là, par exemple, elle va commencer une formation début septembre. Fin septembre, elle aura sa première paye, elle n'aura plus rien en espace de 15 jours, même pas. Elle va acheter n'importe quoi. Voilà, je lui dis, garde un petit peu d'argent pour toi quand tu n'as plus de formation, parce que au moins tu as un peu d'argent.
Oui, bien sûr.
Pas. Ça m'empêche pas que moi je peux te donner, je t'achète par exemple pour la nourriture, tout ça, mais voilà, les loisirs, tu pourrais garder de l'argent au moins pour te payer tes loisirs, et moi je te donne pour la nourriture, les soins et tout ça, voilà.
Il vit avec vous, votre...
Non, il va arriver, normalement il va venir d'ici 15 jours.
Ah, d'ici 15 jours, elle l'a déjà vu?
Elle l'a eu au téléphone plusieurs fois.
Ah, uniquement, donc vous n'avez jamais... Elle ne l'a jamais rencontré?
Non, jamais. Ce sera la première
fois. Ah, d'accord. Ok. Oui. Bon, alors, je vous rassure, on a une once d'espoir, hein, un peu d'éclaircie dans ce que vous nous dites. C'est maintenant qu'elle va rencontrer votre fils, ce sera peut-être différent.
Oui, oui.
Eh bien oui, parce que quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas, Jean-Robert?
Exactement.
Voilà.
Oui, n'est-ce pas? Oui.
J'imagine que la réaction sera différente une fois qu'elle aura créé du lien avec votre fils. Là, pour le moment, c'est comme si vous donniez de l'argent à un inconnu pour elle.
Bah oui.
Vous voyez? Enfin, je sais pas, c'est quelque chose que je... C'est une proposition que je fais. Hein.
Ouais. Mais, elle m'a dit aussi, comme il a 14 ans, il rentre dans la préadolescence, elle me dit, s'il y a un problème, comment je vais faire si t'es pas là? Ben, j'ai dit, tu lui dis, tu essayes de lui dire, s'il n'a pas compris, ben quand je rentre, tu me le dis, puis moi j'en parle avec lui, hein, si c'est simple.
Elle n'a pas d'enfant?
Non.
D'accord.
Moi je vais conseiller, je lui dis, il y a un problème, tu essayes de lui dire, si tu n'y arrives pas, tu laisses tomber, puis quand je rentre, moi, tu me le dis, puis moi je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Hein.
Ah, c'est bien, oui, elle a des inquiétudes, elle est rassurante, elle a envie de bien faire.
Oui, oui. Non, mais je lui dis, s'il y a un problème, tu ne veux pas t'écouter, voilà. Puis tu n'insistes pas. Mm. Moi, si je ne suis pas là, parce que bon, je dois me rendre souvent dans les hôpitaux, je ne suis pas là, bah, tu n'insistes pas. Dès que je rentre, tu lui dis, bah, je vais le dire à ton père ce soir quand il va rentrer, c'est tout. Après, on en discute ensemble.
Bien sûr.
Et voilà, Puis ça fait rien de te prendre la tête. Hein. J'ai dit, je comprends que tu aies peur, tu ne le connais pas, je comprends. Hein. Moi aussi, je ne le connais pas beaucoup, je l'ai vu à Madagascar. Voilà, j'ai jamais pratiquement vécu avec lui.
Ah oui, bah oui. C'est une première même pour vous, alors.
Oui, même si moi, c'est une première aussi.
Wow.
Je l'ai vu comme ça, voilà, je l'ai vu, voilà, on a mangé ensemble, mais je n'ai jamais passé quelques jours avec lui. Voilà. Donc, pour moi, c'est une première aussi, ça me stresse aussi, hein, ce qui est normal.
Eh bien oui, hein. Mais c'est bien de le verbaliser, c'est une bonne chose de l'exprimer.
Voilà, mais je lui dis surtout, ne t'inquiète pas, parce que je dis, ah, tu t'en fais trop, et voilà. Puis tu t'en fais trop, donc voilà. Là, je vais en parler aussi avec le médecin généraliste, que je vais le voir la semaine prochaine, je vais lui en parler aussi, parce que bon, voilà.
Surtout, pensez à poser un cadre. Hein.
Oui,
ça va être très important de voir jusqu'où est-ce que vous pouvez aller, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, parce que votre vision de l'éducation, entre guillemets, et surtout, effectivement, vous avez raison, hein, d'un pré-ado, forcément, n'est peut-être pas la même perception, la même interprétation, et le même concept également, la conception de... Enfin, voilà, pour votre épouse. Hein, donc...
Oui, je comprends, il n'y a pas de souci. Hein.
Donc, plus vous allez en parler, mieux c'est. Mais c'est normal que ça vous perturbe l'un et l'autre. Autre question, quelles sont les qualités de votre épouse, Jean-Robert ?
Ben, elle est gentille.
Ah, ben voilà, vous avez tout dit.
Cuisine, voilà. Le seul problème, c'est qu'elle s'en fait trop pour des fois des choses qui ne sont pas du tout... Elle croit que des choses, des fois, elle a un petit rhume, elle dit, j'ai le Covid, j'ai comme ça. Mais je dis, mais non, il ne faut pas être négatif. Je dis, moi, j'ai une maladie rare, je ne suis jamais négatif. Hein. Mais c'est pire que toi. Hein. À côté de toi, t'as rien à côté de moi. Voilà. C'est ce que je lui dis. Hein. Mais bon, après, voilà, j'essaie de la rassurer, mais ce n'est pas évident.
Voilà. Ouais, une jolie complémentarité, si vous êtes quelqu'un d'optimiste et qu'elle est plutôt...
Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Hein. Je ne me suis jamais plaint. Voilà, j'ai vécu plein de choses, j'ai jamais été de... C'est rare quand vraiment je suis négatif, voilà. Et vraiment, je ne suis pas bien, voilà. Mais j'essaie d'être optimiste, voilà, d'aller de l'avant, parce que dommage, je me dis, si je ne vais pas de l'avant, ben voilà. Hein, voilà. Je me dis, non, il faut que tu ailles de l'avant, voilà. Et puis je suis là, je dis, il y a un problème, ben, tu m'en parles, hein, t'inquiète pas, t'inquiète pas, puis je l'écoute pas, il se prend vraiment pied au cul.
Donc vous voyez, Jean-Robert, elle n'est pas jalouse, votre épouse. Elle est juste inquiète, elle est juste angoissée, comme vous, il y a du stress. Et c'est plutôt sain également, c'est extrêmement sain de se dire, voilà, on accueille un inconnu, clairement. Hein, voilà, donc...
Elle m'a même dit, ma femme, elle m'a dit... Tu fais un test un jour, tu laisses un billet de 5 euros à un endroit et tu verras s'il le prend sans te le dire. Elle m'a dit, c'est un test. Elle m'a dit, faire ça. Elle m'a dit, tu mets un billet de 5 euros sur la table et c'est un endroit et tu vois s'il l'a pris ou s'il ne l'a pas pris.
Elle, veut, tester. Son, elle veut tester
pour
quoi
tester, pour voir si il prendrait un truc sans qu'on lui dise tout ça.
Oui. Non, mais là, pour le moment, vous avez vraiment, enfin, de ce que j'en perçois, la réaction d'un étranger qui arrive. Mais je suis certaine qu'en créant du lien avec votre enfant, ça fait bizarre de dire ça, eh bien, tout rentrera dans l'ordre.
Oui, non, mais je sais, non. Puis bon, avec moi, il sait que voilà, bon, après, il devra m'écouter.
Bien sûr, vous allez tester vos limites. Voilà. Jean-Robert. Surtout, souvenez-vous de quelque chose.
Oui.
Autorité égale sécurité.
D'accord.
Autorité égale sécurité. C'est extrêmement important parce que parfois, les parents culpabilisent de mettre de l'autorité. Mais non, rassurez-vous, c'est très important. L'autorité égale sécurité. Donc,
il devra rentrer à telle heure, il devra faire ça à telle heure. Et voilà, c'était comme ça. On n'est pas... Voilà, il est chez son père et voilà, il devra respecter s'il ne respecte pas.
Bon.
Mais bon, je suis confiant.
Moi aussi, vous voyez.
Je suis confiant, ma femme a un petit peu peur, mais c'est normal, hein, je lui ai dit.
Oui, bien sûr.
Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Surtout, je lui ai dit, s'il y a un problème, tu m'en parles. Voilà.
Et puis s'inquiéter, encore une fois, c'est l'expression de la volonté de bien faire. Donc, c'est très simple. Voilà. D'accord.
Après, je vais, il y a des trucs que je connais pas, je vais lui poser la question, il va me dire, et puis je vais essayer de voir comment il se comporte.
Bien sûr.
Je vais voir comment il se comporte. Bon, chez lui, il se comporte bien, donc je pense que chez moi, ce sera pareil. Avec sa mère, il n'y a rien à dire. Hein, voilà.
Jean-Robert moi, papa. Ouais. Ça y est, on y est. C'est génial.
Oui, c'est génial. Oui.
Ouais. Bon. Voilà. Eh bien, en tout cas, je suis très, très contente pour vous, Jean-Robert. Vous êtes en train de, voilà, voyez, vous vous êtes remarié. Là, vous recevez votre fils. C'est formidable, hein, vraiment. C'est que du bonheur, là, pour vous.
Ah, c'est que du bonheur, oui.
Eh oui. Non, c'est... Voilà, voilà. Je suis très contente pour vous, Jean-Robert.
Ah, et puis,
vraiment, ça, je vous invite à nous redonner de vos nouvelles. Hein. Ça fait extrêmement plaisir.
Et... Je voulais juste vous dire un truc. Quand j'ai vu votre photo sur la libre antenne, je pensais que vous étiez brune.
Ah !
Oui, oui, à la voix, je me suis dit, elle doit être brune. Et en fait, quand je vais la photo, je dis, ah non, elle est blonde.
Et ça change tout ou pas ? Non ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, d'accord. Je ne vous avais jamais vu en photo. Et là, j'ai vu la photo.
Ah oui, oui, oui. Bon. Voilà. Eh bien, voilà. Voilà. Je suis blonde parce que je le vaux bien.
Voilà. Continuez la libre antenne comme ça. Et c'est
merci.
Superbe.
Merci
voilà.
Jean-Robert. Je me permets de vous embrasser et à très bientôt.
Aussi.
Prenez soin de vous.
Merci. Voilà. Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Accueillons tout de suite Cathy. Bonsoir Cathy.
Bonsoir Sana.
Bah alors Cathy, on m'a dit qu'il y avait un gros chagrin ce soir.
Ouais, ça va pas du tout en fait.
Qu'est-ce qui se passe ?
En fait, je
précise que Cathy nous avait appelé cette semaine. Cathy, je vous ai eu en début de semaine, non ? Lundi ?
Non, la semaine d'avant.
La semaine dernière.
La semaine d'avant, c'était un jeudi, je sais plus, c'était la semaine dernière.
Donc, jeudi dernier. D'avant. Et vous appeliez pour Jacqueline.
Ouais. Et d'ailleurs, elle n'a pas eu de réponse.
Ah, pas de réponse pour le moment ?
Non.
D'accord. Bon. On refera un appel si vous voulez. Qu'est-ce qui vous arrive, Cathy, ce soir ?
Eh ben, en fait, je viens de dire à quelqu'un que j'héberge depuis longtemps de partir. Et je lui ai demandé les clés.
C'est... Qui est cette personne ?
C'est mon... En fait, c'était un ex qui était devenu un ami avec les années. Enfin, un ex, il y a 2000... on a rompu la relation amoureuse en 2001-2002, quoi.
D'accord. C'est la personne avec vous étiez la semaine dernière ?
La semaine dernière, oui, il y avait lui et il y avait mon conjoint, oui.
D'accord. Alors, j'essaye de comprendre. Il y a votre conjoint et là, donc, c'est un ami ex ?
Oui, en fait, c'est ça.
Ok. Qui logeait chez vous ?
Oui, en fait, j'ai deux appartements. J'ai un appartement à Paris.
D'accord.
Où je suis là. Enfin, quand j'y suis, je suis avec mon conjoint qui, lui, par ailleurs, a un autre appartement. Et à Saint-Malo, j'héberge cet ami.
D'accord. Vous étiez à Saint-Malo, d'ailleurs, la semaine dernière.
Oui, j'y suis toujours.
Vous y êtes toujours. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Et en fait, le gros problème, en fait, c'est que. Bon, c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Donc, déjà, ça, c'est compliqué. Mais je ne peux plus supporter la situation, en fait. Parce qu'il s'alcoolise et... Et voilà, c'est ça le problème, en fait. Et en fait, il y a eu... Déjà, je l'avais... À l'époque où j'étais à Paris... Enfin, il y a eu une époque où il était chez moi à Paris. Je l'avais déjà viré de l'appartement parisien. Mmh. Ça, il y a 5 ans. Et puis, j'ai un ami... qui lui avait dit de venir à Saint-Malo. Je partageais à l'époque l'appartement avec un autre ami qui lui avait dit de venir à Saint-Malo. Et puis j'avais dit oui, mais ce sera que pour une durée déterminée, en fait. Mmh. Et puis, vous savez, après, les choses ont fait que... j'ai pas eu le cœur, après, de lui dire de partir. L'ami avec qui j'étais au départ est parti, et donc je suis restée... Je suis restée avec cette personne et du coup, en fait, ce qui est très, très compliqué, c'est qu'en même temps, quand il est très bien, on passe des moments super, on regarde des séries, c'est 25 ans de relation, c'est énorme, en fait.
Oui, c'est une complicité...
C'est ça.
Oui, bien sûr, je comprends. Mais vous le considérez comme un ami ou un ou plus?
Je le considère un peu comme un frère jumeau, en fait.
D'accord. Je comprends.
Et du coup, là en fait, bon, c'est même pas vraiment engueulé plus que d'habitude ou quoi, en fait. C'est juste que il a sorti mes chiens et en fait, il me répondait pas au téléphone. Et je savais très bien que s'il me répondait pas, c'était mauvais signe. Et en fait, j'ai envoyé un message en lui disant « Mais tu... En fait, là, tu te fous vraiment de ma gueule, quoi, en gros. » Et au même moment, il arrivait avec les chiens. Et là, je... En fait, honnêtement, je vais sauter dessus pour lui dire « Là, c'est bon, ça commence à bien faire. J'en ai ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol, tu pourrais au moins répondre. » Et là, t'as sorti les chiens pendant une heure. Donc déjà, c'était pas clair. Parce que bon, s'il les avait sortis juste pour aller jouer avec elle ou quoi, il m'aurait prévenu. Là, je savais très bien que c'était parce qu'à côté, il allait picoler. Et du coup, là, je me suis énervée, en fait. Je me suis levée... Et même, je vais vous dire la vérité, hein, je suis devenue violente, en fait. Ah. Je suis allée vers lui et je lui ai dit « Donne-moi les clés ». Je lui ai mordu le bras, parce qu'il ne voulait pas me les donner. Donc, je l'ai mordu carrément. Je lui ai dit « Donne-moi les clés ». Il m'a dit « Non ». Et du coup, après, il est revenu vers moi, il m'a mis les clés dans la main, il m'a écrasé la main avec les clés dedans. Vous savez ce qui fait bien mal, parce qu'une fois que vous avez les clés dedans... Mm. Et il m'a dit, toi et enfin mon conjoint, je ne vais pas dire les prénoms, vous avez bien eu ce que vous vouliez. En gros, en fait, c'est toujours du chantage, en fait. À chaque fois que quand j'essaye de lui dire de partir, à chaque fois, il me fait du chantage du genre, parce qu'il n'a pas d'appartement, en fait. Donc après, c'est genre, je vais me retrouver dehors, enfin, il essaye vraiment de me faire culpabiliser, en fait. Alors que s'il se bouge pas, ben, c'est de son fait. Et moi, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais. C'est-à-dire qu'actuellement, je paye le loyer, je paye tout, en fait.
Comment est-ce que vous définissez votre, cette relation, Cathy?
Ben, en fait, comme j'ai très peu de famille, j'ai toujours dit que c'était... En fait, il n'a plus de famille et moi non plus.
C'est pour ça que vous parlez de frère ?
Ouais, je pense, ouais. Parce que du coup, on a... Enfin, en fait, je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire juste que y a... quand il est parti de Paris pendant deux semaines, je n'ai pas eu de nouvelles et j'en pouvais plus. Enfin, c'était vraiment... En fait, il suffisait qu'on m'évoque son prénom pour que je me mette à pleurer. Enfin, c'était infernal, en fait.
Je comprends.
Infernal.
Bon, là, il valait mieux de toute façon qu'il parte, parce que compte tenu de la tension
c'est que demain, s'il me dit « je reviens », la difficulté, ça va être de lui dire non. Et c'est ça, mon problème, en fait. Mon problème, c'est de tenir... ce que je viens de dire, parce que déjà c'est dur pour moi sur différents plans. D'une part, il y a l'affectif
qui est très présent,
oui, énormément, et d'autre part, il y a l'aspect un peu matériel, faut le dire, parce que ici je suis quand même beaucoup moins autonome, étant déficiente visuelle, comme vous le savez, oui, qu'à Paris. J'ai, par exemple, les plaques électriques sont très compliquées. On a essayé de trouver des solutions pour que je m'en serve aussi bien qu'à Paris, mais elles sont montées bizarrement. En fait, il y a un bouton qui est dans un sens, l'autre qui est dans l'autre. Il n'y a pas de repère, c'est très compliqué. Donc, même, vous voyez, d'un point de vue matériel, c'est difficile. Et puis, en plus, ici, j'ai pas d'amis. Vraiment pas. Ça aussi, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais dit que je vous rappellerais, c'était pour ça. C'était pour essayer de me faire des contacts. En fait, ici, j'ai l'impression que dans cette ville, les gens, c'est impossible de se faire des amis. On arrive à se faire des relations superficielles, bonjour, bonsoir, mais même là, moi, je m'étais fait une personne que je croyais être une amie, mais en fait, je me rends compte qu'elle ne m'appelle jamais.
Vous êtes sur Saint-Malo intramuros ou
Non, pas du tout.
D'accord. Et vous y êtes combien de temps dans l'année?
Oula.
Sur l'année à peu près, vous y êtes combien de temps?
4-5 mois sur 12.
4-5 mois sur 12?
Non, 7 mois sur 12.
Quand même! Donc c'est.
Ah. Bah oui, parce qu'en fait, au départ, en fait, j'y suis venue pour regarder ce que je vous disais l'autre fois brièvement. En fait, j'ai donc un chien guide retraité.
Oui.
Et je suis venue à Saint-Malo pour garder mon chien.
Mm-hmm.
Parce que à Paris, j'ai un petit logement et l'école, quand ils mettent le chien à la retraite, ils veulent que le chien soit bien. Enfin, dans la mesure où le chien travaille plus, qu'il soit à la mer ou à la campagne ou quoi. Donc du coup, j'ai pris toutes mes dispositions par rapport à mon chien, parce que je voulais absolument garder mon chien.
Bien sûr.
Et même par rapport à ça, c'est dur aussi cette rupture, parce que il s'est toujours occupé de mon chien aussi. Donc ça aussi, c'est dur, parce que je sais que si je le vois plus, je lui enlève le chien aussi.
Mais une forme de... La perception que j'en ai, j'ai le sentiment que vous vous êtes mise en dépendance avec cette personne.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que vous nous parlez de la plaque, d'accord, la plaque de cuisson. J'ai une question très simple à vous poser, Cathy. Si je vous change la plaque de cuisson,
une plaque... Bah, au moins, je me sentirais au moins autonome matériellement. Après, ça ne veut
alors
pas
voilà.
dire que... Fait...
Donc, sur le plan en termes d'autonomie, est-ce que vraiment, si on facilite votre quotidien, est-ce que vous auriez encore besoin de lui?
Non.
Je sais qu'elle est dure la question, hein, mais...
Non, besoin non. Mais par contre, lui, ce qui est compliqué, c'est que là, par exemple, tout de suite, je sais qu'il a nulle part où aller, je sais qu'il est dehors, je sais qu'actuellement, il n'a pas de revenus. En fait, la dépendance, elle est des deux côtés, si je puis dire.
Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine façon, si je savais là qu'il a où aller, que tout va, enfin, entre guillemets, pas tout va bien, mais il a trouvé des solutions, même si je le vois plus, ce serait dur, mais je me dirais, on va passer 6 mois, 1 an, puis si un jour il se soigne, parce qu'en fait, le vrai problème, il est là.
Ben voilà. En fait, il y a. Vous avez complètement raison. Je crois que le fond du problème, c'est que vous avez un frère de cœur qui, malheureusement, n'a pas une bonne relation, enfin, a une relation qui n'est absolument pas saine avec l'alcool. Donc, ça, vous l'avez clairement identifié, malheureusement, depuis des années. Donc, vous ne pouvez rien...
Pas depuis toujours. Je ne l'ai pas toujours connu comme ça. Hein. Je le dis quand même.
Bien sûr.
Au départ, non, il y avait, même chez moi, à l'époque, on faisait des fêtes, il y avait des relations, on buvait à des occasions festives, mais c'est vrai qu'à certains moments, on faisait bien la fête, quoi, mais il n'y avait pas même moi, et pourtant, je dois le dire, j'ai pas de problème d'addiction, moi. Et pourtant, si vous voulez, il y a un nombre de fois incalculable où je lui ai dit, parce qu'en plus, Sana, il faut savoir que j'ai l'impression d'être dans une répétition, puisque j'avais mon père qui buvait et que j'ai une histoire familiale en plus compliquée. J'ai dit à mon père que je voulais plus le voir, j'avais 15 ans. Et à l'âge, après, j'ai plus vu mon père. Et quand j'avais 33 ans, mon père a mis fin à ses jours.
Vous avez culpabilisé?
Non.
Non?
Non. Non, je me suis dit, au moins, ce connard, je l'aurais plus dans ma vie.
D'accord.
Ah non, alors là, j'étais contente même, carrément. Grave. C'est dur, hein, mais j'étais contente.
Non.
Ah ouais.
Alors, je vous rassure encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous juger. C'est votre histoire. Et il arrive malheureusement...
Ah non, c'était un mec violent et tout. Ah non, je pouvais plus.
Non, mais
avec ma mère et tout, non.
Ouais, non, je vous rassure. Je vous rassure. Je...
Et en plus, il faut savoir que la personne dont on parle, là, s'est fâchée avec ma fille il y a 2 ans. Il y a 2 ans, parce qu'en fait, il avait élevé ma fille à mes côtés. Et il y a 2 ans, ma fille, elle a perdu son père et... Bon, lui, toujours pareil. Avec l'alcool, il a eu certains propos qu'elle n'a pas acceptés. Et puis, ils avaient renoué un lien, parce qu'il lui avait fait une lettre, une superbe lettre, en lui disant qu'il tenait à elle et tout ça. Il m'avait demandé mon avis, je lui ai dit, bah oui. Elle avait été touchée, elle lui avait laissé une chance. Et puis, au moment où il devait aller manger chez elle, eh ben, il a bu, et ce soir-là, il n'y est pas allé. Oui. Et là, du coup, elle a dit, bah c'est fini.
Bon, en tout cas, par rapport à ce soir, vraiment, Cathy, vu ce qui s'est passé, il est préférable qu'il ne revienne pas. Là, il va passer la nuit dehors ou ailleurs, rassurez-vous.
Mais ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs, en fait.
Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pour quelle raison ?
Je sais qu'il ne connaît personne. Mais parce que je sais qu'il ne connaît personne ici.
Oui, peut-être, mais il y a des hôtels.
Oui, mais il n'a pas d'argent.
Il n'a pas une carte bleue ?
Non, il n'a aucun revenu actuellement.
Il n'a rien du tout ? D'accord.
Non.
Bon. Eh bien, si ça peut l'aider à un électrochoc, à tout à coup se dire « bon, il faut que je redonne du sens à ma vie », ça peut être une bonne chose.
En fait, l'électrochoc, ça n'a, honnêtement, je vais vous répondre, excusez-moi de vous couper.
Non, je vous en prie.
Mais je l'attends depuis longtemps. C'est ça le problème, c'est que depuis déjà 5 ans où je l'avais viré du logement parisien, j'espérais que ça déjà, ce serait un électrochoc. Et cet électrochoc, je pensais, en fait, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'il ait un électrochoc. Parce qu'en fait, il me fait du chantage. Là, par exemple, ce soir, il m'a dit « Oui, bah, si je te rends les clés, de toute façon, on ne se verra plus. » Voilà, il sait très bien que ça va me faire mal. Et en fait, parce que là, ce soir, j'ai appelé la police et tout, carrément. Ah ouais, ouais.
Cathy,
je lui ai dit « Très bien, tu ne veux pas partir, j'appelle la police. »
Vous savez, Cathy, tant que vous êtes là, il ne peut pas y avoir d'électrochoc. C'est impossible. Parce que vous êtes là. Ben oui, à partir du moment où vous disparaissez ou en tout cas vous mettez de la distance, là forcément il va se passer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
C'est que si vous m'aidez constamment, eh bien ça peut être compliqué. Je vais l'expliquer avec une histoire que j'aime bien raconter. C'est un monsieur qui pêche, voilà. Et sur son trajet, il y a un monsieur, un mendiant. Et donc tous les soirs, en fait, en rentrant de sa pêche, le monsieur donne un poisson au mendiant. Et puis tous les soirs, voilà, il lui donne un poisson. Puis un jour, le mendiant finit par lui dire « Je te remercie de me donner un poisson, mais apprends-moi plutôt à pêcher.
Ouais. »
Tant que vous continuez à l'aider, mais quelque part, peut-être que vous ne l'aidez pas.
Oui, je sais, mais ça, je sais. J'en ai conscience en plus. C'est ça le pire.
C'est peut-être dur aussi ce que je dis.
Non, mais j'en ai conscience en plus, c'est ça. J'en ai conscience. Mais je suis prise entre... Il y a un manque. Enfin, quand je ne le vois plus, comme je vous disais, quand je ne l'ai pas vu pendant 2 semaines, il y a un manque. Et en même temps, il y a... il me pourrit la vie. Voilà, il faut le dire.
Alors moi, je n'osais pas encore vous parler de toxicité, parce que vous en parlez comme un frère de cœur, comme quelqu'un qui compte énormément pour
ouais,
vous. Mais vraiment, on a le sentiment presque... Je me dis, mais est-ce que Cathy est sûre de ses sentiments vis-à-vis de cet homme, hein, parce que vous y êtes extrêmement attachée. Donc,
bah oui, mais j'ai mon conjoint quand même aussi.
Oui, non, mais c'est pour ça. Je vous dis, il peut y avoir... Enfin, c'est un peu troublant quand même.
Oui, je sais.
Donc... Maintenant, comme ça, je dirais que c'est une relation qui est toxique. Toxique pour vous, parce que pour en arriver quand même à mordre quelqu'un, il faut y aller. Et puis,
ouais.
Bah, pas forcément si bonne pour lui, parce qu'il est dans une zone de confort et qu'il n'avance pas.
Oui, je sais.
Vous avez reçu un SMS d'Yvette. Ça fait longtemps, Yvette. Bonsoir, Yvette. Alors, bonsoir, le problème est que sans lui, vous êtes malheureuse. Alors, mettez de l'eau dans le vin, si je puis dire, gardez vos chiens et carte sur table, vous mettez vos conditions, ne le tapez pas, lui, mais discutez ferme.
Non, mais discuter ferme, c'est fait déjà. Ça sert à rien. Parce que quand il va être bien, non alcoolisé, ça va se passer très bien. On va discuter. Il va être même hyper gentil. Il va faire tout ce qu'il peut pour moi, tout. Il va préparer la bouffe. Il va faire le ménage. Il va sortir les chiens, tout. Et quand il aura bu, c'est-à-dire il va se passer un certain temps quand même sans qu'il boive, parce que quand même, quand il a des électrochocs comme ça, ça peut durer 3-4 mois où ça se passe bien. Et au bout de 3-4 mois, ça va recommencer, en fait.
Cathy, pour quelle raison est-ce qu'il fait ça pour vous ?
Parce que je pense que comme je l'héberge, il le fait pour pour faire quelque chose par rapport au fait qu'il est hébergé, enfin pour pas rester là du fait qu'il travaille pas.
Je savais que cette question allait être un peu ben oui, pour quelle raison est-ce qu'il fait tout ça pour vous?
Déjà il le fait quand je, des fois quand je suis là, mais en général quand je suis pas là, parce que comme je vous disais, moi des fois je vais à Paris.
Donc, vous lui laissez l'appartement ?
Ouais. Quand je suis à Paris, ouais. Et du coup, en fait, il tient, enfin, entre guillemets, il tient l'appartement quand je ne suis pas là, oui, c'est ça.
Et pour quelle raison vous acceptez cette situation ?
Parce que je vous dis, parce que je me dis que sinon il est dehors, en fait. Parce que je me dis qu'actuellement, il n'a pas de revenus.
Depuis combien de temps il n'a pas de revenus ?
Là, un an. Et justement, à ce propos, je suis allée voir son assistante sociale. Mmh. Par contre, j'ai au moins fait ça, quand même.
Ouais.
Le mois dernier, je suis allée avec mon conjoint discuter avec son assistante sociale pour essayer de voir avec elle comment on pouvait débloquer certains papiers qui étaient restés bloqués. Mmh. Enfin, bon, donc le problème n'est pas totalement réglé, mais je lui ai également dit quel était le problème pour moi. Je lui ai également dit que je voulais qu'il parte. Je lui ai également parlé des problèmes d'alcool. En fait, j'ai tout mis sur la table ce jour-là.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose ou fait avancer les choses ?
En fait, c'était honnêtement juste avant qu'elle parte en vacances. Donc après, elle l'a convoqué.
Mmh.
Et là, je sais qu'elle devait le revoir le 16, justement.
D'accord. S'il n'y va pas, qu'est-ce que vous allez faire ?
S'il n'y va pas ?
Oui.
De toute façon, je saurais peut-être. Enfin, je ne sais pas si je saurais s'il y va ou pas, déjà. Mais par contre, moi, ce que je peux faire, c'est la rappeler, elle. Mais...
Alors, jusqu'à quand est-ce que vous êtes prête à accepter cette situation ?
Mais je sais, Sana, en fait, je sais très bien ce que vous êtes en train de me dire. C'est que je sais qu'il ne faut pas que j'accepte, qu'il faut que là, je mette un stop à la situation. Ça, je
pas forcément.
Le sais, j'en ai...
Pas forcément. Je suis juste en train de dire, allez-y, continuez. Je vous dirai après ce que j'en pense. Enfin, je suis déjà en train de le faire.
Ouais, je sais. Mais en fait, je ne sais pas comment faire, en fait. Enfin, je ne sais pas comment faire, oui. C'est que c'est aussi bête que ça. Je me sens... Là, je suis pas bien. Et comme à chaque fois que je lui dis... Enfin, en fait, c'est arrivé une fois, mais en général, il me rappelait. Parce qu'en fait, là, quand je lui ai dit de me rendre des clés, il a sonné à l'interphone, je pense. Après coup, j'ai vu que son chargeur était sur la table de téléphone. Donc, en fait, j'avais pas vu pendant plusieurs heures. Et à un moment donné, j'ai vu que le chargeur était là. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il voulait que je récupère... Il voulait peut-être récupérer son chargeur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas répondu. Il a sonné comme un malade. Je n'ai pas répondu à l'interphone. Je me suis dit, non, il faut que tu tiennes ta décision. Tu lui as dit de partir et pas.
C'est la première fois qu'il y a une dispute aussi forte ?
Non.
Non.
Non. Mais au point où je lui dis, donne-moi les clés... je crois qu'en général, la première fois que je tiens déjà autant d'heures, sans le rappeler.
Ah, alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté ? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ce soir, eh bien voilà, vous avez décidé que c'est terminé, stop.
Ah mais parce que je me dis que ça ne peut pas durer. Quoi.
Vous avez
je
dit,
sais.
Il me prend pour une idiote.
Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai dit... mais ça fait un moment que je le dis, mais là... En fait, non, mais je voudrais... en fait, c'est pas que je ne veux plus avoir de relation. C'est quelque part que si on avait une relation un jour, je voudrais que cette relation, elle soit saine.
Mais c'est exactement ça. Qu'elle soit vraiment beaucoup plus saine que finalement, vous êtes vraiment dépendants l'un de l'autre.
Mais c'est pour ça aussi que je suis allée voir son assistante sociale pour dire il faut que... C'est pour ça déjà que j'avais commencé quand même quelque chose. Je ne l'avais pas encore mis dehors, mais le but était de dire à l'assistante sociale, j'en suis là et je ne supporte plus ça et je veux qu'il parte par rapport à ça, si vous voulez.
Oui, il y a beaucoup de non-dits entre vous et la dépendance fait que forcément, c'est pas sain du tout et ça a fini ce soir par exploser. Maintenant,
il n'y a pas de non-dit. Non, il n'y a pas de non-dit parce que la situation, en fait, on en parle. Non, on en parle.
Oui.
Non. Alors, on parle des choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles se résolvent.
C'est exactement ça. Il n'y a pas de progression depuis un an, en tout cas.
Ah ben, depuis qu'il n'a plus rien, non. Et en plus, alors je dirais que d'un certain côté, alors en fait, c'est un peu... Mais je me dis, parce que là, il avait juste très peu d'argent, puisque c'était de l'argent avec lequel il a fait des courses. Donc même s'il a bu, il n'a pas pu boire tant que ça. Parce qu'en réalité, même quand il boit un peu, il ne le supporte plus, en plus. Même quand... Parce que quand il avait plus d'argent, il buvait plus. Et en général, ça dégénérait plus. C'est-à-dire qu'il n'était pas violent physiquement, mais par contre, il y avait des insultes. Mais de mon côté aussi.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que moi aussi, je viens d'une enfance, comme je vous ai dit, compliquée. Avec une maman maltraitée par mon père. Mais en plus, si vous voyez, aujourd'hui... Je me sens un peu sans famille. En fait, ça, c'est très, très compliqué pour moi, en fait. Je me sens...
Mais déjà, vous nous avez parlé de solitude, sur Saint-Malo. Ouais. Donc, bon, Cathy, vous êtes une fidèle auditrice. Vous savez très bien aujourd'hui que si vous voulez créer du lien social, il y a plein, vous le savez, il y a plein d'associations. Surtout que si vous êtes 7 mois sur l'année... à Saint-Malo, vous pouvez vraiment entretenir, en plus alimenter ces liens que vous pourrez créer. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez, quelle suite vous souhaitez donner à cette relation avec cette personne, parce que c'est le cœur du sujet. Vous n'allez quand même pas passer toutes les semaines à le mordre. Enfin, c'est violent, c'est pas possible.
Ouais, mais je sais. Mais je vous l'ai dit par honnêteté, en fait.
Mais, merci.
Mais non, mais parce que en fait, pour que j'en arrive là, c'est que vraiment,
évidemment,
ça a été trop, trop loin. Trop loin.
C'est et là,
ça,
c'était le début. C'est-à-dire que une fois qu'on a vraiment, là, il y a quelque chose. Il n'est pas une cassure, mais quand même, on est sur de la violence physique. Donc attention.
Oui, mais je sais.
Ça peut monter en escalade, hein.
Oui, je vous dis, la façon dont il m'a rendu les clés, c'était très violent aussi, en fait. Hein, parce qu'il m'a mis les clés dans les mains, mais il m'a serré la main avec les clés dedans. C'était très, très violent aussi. Et puis après, il m'a dit un truc du genre que mon conjoint et moi, on avait gagné ce qu'on avait voulu. En gros, il dit toujours que mon conjoint m'a monté la tête. Des conneries, quoi. Alors que pas du tout, en fait, il faut bien le savoir.
Donc on est bien sur des non-dits. On est sur des non-dits, il y a de la rancœur, il y a des choses qui...
Non, mais c'est quand il voit, il dit des trucs comme ça.
Ouais,
à chaque fois,
bon.
Mais après quand il est à jeun, je lui dis, t'as dit ça.
Cathy, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez un mari manifestement charmant, vraiment... C'est pour cette raison que je vous dis, mais pour quelle raison vous acceptez d'avoir à supporter quelqu'un qui a une addiction, qui en plus vous rappelle votre père, que vous avez qualifié avec un certain... Pour quelle raison vous punissez, Cathy ?
Ah oui, non, mais en plus, il faut savoir que même le père de ma fille, il buvait. Ah, c'est bizarre, quoi. Et c'est vrai que déjà, je me sens, sans... Pourtant, bon, moi, j'ai fait face à pas mal de situations douloureuses. Hein. Ma mère, je vous dis, ma mère, déjà, elle a quitté mon père, j'avais 15 ans. On avait une belle maison, on s'est retrouvés du jour au lendemain sans rien. à Paris sans rien. Mes sœurs, je les vois plus. Là aussi, c'est une cassure pour moi.
Alors, l'énergie que vous mobilisez avec cet homme, vous pouvez justement l'utiliser pour renouer.
Ah, mais j'arrive pas, ça, ma sœur, elle veut pas. Par contre, ça, je viens d'essayer.
Alors, si c'est pas renouer, c'est créer.
Ma sœur, en fait, elle veut pas parce que mon beau-frère, je vous explique, mon beau-frère est malade. Il veut pas me voir parce qu'il y a des années, il y avait une émission par rapport au handicap.
Oui.
Une émission télévisée, et j'avais dit ce que je pensais, à savoir que j'étais étouffée par ma famille et que par rapport au handicap, il fallait laisser les gens faire les choses par eux-mêmes et pas les étouffer en leur disant « touche pas ci, fais pas ça, tu vas tomber, attention, machin, truc. Bon. » Et du coup, comme
vous
il
avez
avait dit
ça ses... C'est vous qui avez dit ça?
Oui, j'avais dit ça.
C'est intéressant parce qu'on a le sentiment que c'est exactement ce que vous faites avec ce monsieur.
Ouais, mais je me comporte en maman, en fait.
Et ben voilà.
C'est ça. Ouais, mais je sais. Et du coup, mon beau-frère, suite à ça, il avait dit à tous ses collègues d'écouter l'émission. Et du coup, après, il n'a plus voulu me voir. Et aujourd'hui, il est très malade. Et quand je dis à ma sœur, on pourrait se voir, elle me dit « Ah ben non, parce qu'il a besoin de moi, machin. » Donc, on ne se voit pas. Et puis, l'autre, c'est autre chose. L'autre, elle est totalement bipolaire. Elle a décidé de me dire adieu il y a de ça plus de 10 ans. Et...
D'accord.
Bon, et avec ma fille, en ce moment, c'est un peu compliqué aussi. Elle est partie de chez moi, elle avait 12 ans. Elle est partie chez son père.
Mmh.
Et aujourd'hui, moi, à Paris, j'ai un tout petit appart.
Oui.
Donc, en ce moment, maintenant, elle est chez sa belle-mère avec son frère. Et je souffre du fait que je la vois, elle fait beaucoup de choses avec sa belle-mère et avec son frère. Par exemple, ils partent 2-3 jours ici et là, et avec moi, jamais.
Ouais, je comprends que ce soit dur pour vous.
Et ça, j'ai... Encore, vous voyez, ça, c'est même pas du domaine du raisonnable. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un SMS. Je lui disais, t'es où? Tu fais quoi? Elle me disait, je suis partie avec... elle disait le nom, les prénoms. Et vous savez, ça me fait direct un coup au cœur. C'est même pas raisonné. C'est...
Ah non, je comprends. C'est la maman. C'est la maman qui s'exprime, c'est votre fille qui vous manque.
J'ai l'impression que sa
belle-mère
a pris la place de sa mère que moi, du coup, je suis rien, en fait. Et ça, c'est très difficile, en fait.
Je comprends, mais rassurez-vous... on n'efface pas comme ça l'amour d'une mère et tous les moments que l'on passe avec elle. Ce qui est très très important et surtout le plus important, c'est de garder du lien. Et même si on communique mal, il vaut mieux communiquer mal que ne plus communiquer. Donc, envoyez des messages comme vous le faites à votre fille.
Non, mais des fois on se voit, on fait méchant. Ouais. J'ai l'impression, vous voyez, qu'avec moi, on se voit, c'est 3 heures et puis au revoir, quoi. Genre, on va aller manger un truc dehors ou elle va venir chez moi, peu importe.
Cathy, qu'est-ce qui vous retient de lui dire que ça...
Je lui ai dit, hein, elle le sait. Hein.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Oui, je comprends. Et l'autre fois, elle a dit qu'elle voulait peut-être venir à Saint-Malo, mais quand il y aurait mon conjoint.
D'accord.
Et
elle a peut-être pas envie de voir ce monsieur qui est là depuis un an aussi. Hein.
Oui, mais elle avait dit
ça
que...
C'est un frein.
Oui, voilà, mais c'est aussi pour ça que là, j'ai pris cette décision, en fait.
Eh ben voilà.
C'est aussi ça. C'est aussi ça.
Bon. Cathy, il n'est point de bonne compagnie qui ne se quitte, malheureusement. J'espère que ça va s'arranger. J'espère en tout cas que ça vous aura fait au moins du bien de d'échanger, de libérer la parole ce soir. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et rappelez-moi si ça ne va pas comme vous l'avez fait ce soir. D'accord ?
D'accord.
Bon. Je me permets de vous embrasser, Cathy.
Ouais, moi aussi.
Bon courage.
Merci beaucoup.
Eh bien, nous nous retrouvons demain à 22h pour de nouvelles confidences. Vous avez tout de suite rendez-vous avec... nous sommes jeudi. Merci Adrien. Eh bien oui, donc bon week-end, puisqu'il n'y a pas de libre antenne le week-end. Donc lundi, rendez-vous donc à 22h. Vous avez rendez-vous avec surtout le sport, Europe 1 Sport, ce week-end. Et puis, moi je vous souhaite une douce nuit.